Des panisses maison, c'est une spécialité locale, c'est très bon. Les beignets de fleurs de courgettes. Et donc là, vous aurez la salle de restaurant pour vous tout seul.
Comment ça, un restaurant ouvert? Eh bien, c'est à Marseille, dans un hôtel à une condition, être seul dans la salle, pas d'autres clients et pas de serveur pour vous passer le sel. Premier jour férié du déconfinement, ce jeudi de l'Ascension, et on le rappelle, c'est le week-end qui est prolongé, pas la distance maximale de 100 km. D'ailleurs, les policiers ont des consignes strictes.
Notre tâche, c'est de prévenir et voire de réprimer des conduites à risque. Donc il faudra que tout déplacement au-delà de 100 km soit justifié.
Dans ce journal, le calendrier toujours flou des municipales en juin ou en janvier. Les messes de l'Ascension, encore par webcam, les salaires trop bas des infirmiers qui sont en majorité des infirmières et les EHPAD qui déconfinent, mais alors prudemment, les résidents de leur chambre.
De temps en temps, on va manger 3 par 3 avec les masques et les gants. Ça m'a fait un grand bien. Un soulagement comme il n'y a pas.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Vous dialoguez avec elle ensuite à partir de 8h30. Vous vous inscrivez dès maintenant au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. 8h45, Nicolas Canteloup et sa revue de Presque. Vous êtes sur Europe 1, 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, François Geffrier.
Alors que le 1er mai et le 8 mai sentaient un peu le renfermé. Voilà le premier jour férié déconfiné, le jeudi de l'Ascension aujourd'hui. Et si nous allions au restaurant? Alors impossible dans des conditions normales bien sûr, mais voilà qu'un hôtel marseillais propose une formule qui joue un peu avec les limites.
Oui, vous passez commande et vous pouvez déjeuner dans la salle du restaurant à condition d'être le seul client à ce moment-là. Reportage de Nathalie Chevance.
Fermez les yeux et imaginez un maître d'hôtel vous proposer sa carte face à la mer.
Des panisses maison, c'est une spécialité locale, c'est très bon. Les beignets de fleurs de courgettes. Vous pouvez également partir sur les petits farcis bord de mer, c'est la spécialité de l'hôtel. Et donc là, vous aurez la salle de restaurant pour vous tout seul.
Un repas au restaurant comme avant, pas tout à fait, car ici, les clients réservent par téléphone. Ils récupèrent ensuite un plateau repas, aucun contact avec le personnel. En fait, c'est du room service revisité, un pique-nique contemporain imaginé par Laurent Banover, directeur des domaines de Fontenil.
On offre quelque chose comme dans une maison. Donc bien sûr qu'on ne sert pas les clients comme on fait d'habitude, parce qu'on vient avec des plateaux. Mais vous pouvez manger n'importe où, sur le rooftop, dans le restaurant, et on fait comme une mini privatisation du restaurant. Le client dit, j'aimerais bien dîner ce soir, pas de problème, on a un créneau à 19h30. En fait, on a optimisé l'espace. On doit revenir à la vie.
Avec une distanciation sociale obligatoire, très appréciée par Benjamin et son ami, qui ont bravé les 100 km autorisés pour s'attabler seul dans la salle de restaurant.
Je suis à 5 mètres de la mer, sur une table de restaurant. Incroyable. Bah, je crois qu'on va beaucoup manger là, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Je suis un énorme vénard.
Un concept qui fait mouche, l'hôtel est complet. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et dans les Bouches-du-Rhône, les plages de la Ciotat, Martigues, Arles rouvrent aujourd'hui, tout comme la quasi-totalité des plages corses. En revanche, on referme déjà dans le Morbihan, à la Trinité, Damgans ou encore Erdeven. Décision de la préfecture après des manquements aux règles.
Les règles, les forces de l'ordre sont déployées tout le week-end pour les faire respecter, à commencer par les fameux 100 km.
Les contrôles ont lieu dans les gares routières, péages, axes stratégiques, mais aussi les centres-villes. Bref, partout, à en croire Michel Laveau, porte-parole de la police nationale.
Notre tâche, au-delà de l'immense majorité de la population qui respecte les règles de déconfinement, c'est de prévenir et voire de réprimer des conduites à risque. Nous aurons d'abord en centre-ville le fait de veiller à l'interdiction des rassemblements qui sont supérieurs à 10 personnes. Donc vous aurez des policiers en centre-ville qui veilleront au respect de cette interdiction. Et puis nous aurons bien sûr le respect de la règle qui veut que les déplacements au-delà d'un rayon de 100 km de son lieu de résidence sont interdits à quelques exceptions près. Donc il faudra que tout déplacement au-delà de 100 km soit justifié.
Michel Laveau, par Chloé Triomphe pour Europe 1.
Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, on va là aussi vers un déconfinement. Les visites ont déjà repris, mais le plus souvent, les résidents ne peuvent pas quitter leur chambre.
Alors, puisqu'il s'agit d'une population à risque face au coronavirus, cette nouvelle étape d'un retour à la normale va se faire en douceur, Virginie Salmen.
On y va pas à pas. Première étape, certains résidents sortent de leur chambre pour prendre leur tout premier repas depuis 2 mois dans la salle commune, comme Madame Cosette Norris, 73 ans, qui vit à l'EHPAD Bellevue de Saint-Gobain dans l'Aisne.
Tout doucement, mais on a commencé. De temps en temps, on va manger 3 par 3, éloigné à une table, avec les masques et les gants. Ça m'a fait un grand bien. Un soulagement comme il n'y a pas.
La vie sociale reprend doucement, atelier couture à deux ou trois, jardinage à l'extérieur, une personne à la fois avec l'animatrice. Mais il y a aussi quelques résidents encore sidérés par la pandémie et qui ont peur d'entamer le déconfinement, raconte la directrice de l'EHPAD, Florence Kovac.
On a notamment une résidente qui est un peu en psychose. Elle a peur de tout, elle ne veut pas sortir de sa chambre, elle reste confinée dans la chambre, elle refuse les visites de ses enfants, de sa famille. Elle pense qu'elle peut être contaminée et de transmettre le virus lors des visites.
Pour les visiteurs, les mesures sanitaires, prise de température à l'entrée, lavage des mains, masques, devraient perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année dans tous les EHPAD de France.
1340 euros net par mois à l'embauche, 2400 en fin de carrière. Les salaires des infirmiers et infirmières placent la France 22e sur 33 pays dans le dernier classement de l'OCDE.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se donne jusqu'à mi-juillet, donc moins de deux mois pour faire aboutir les concertations sur le futur plan pour l'hôpital. Il veut notamment mettre fin à la paupérisation des soignants. Alors d'où vient ce décrochage français ? Ève Roger nous explique.
Si les infirmières en France sont mal payées, c'est d'abord un héritage de l'histoire. Pendant longtemps, cette mission a été confiée aux religieuses qui soignaient par vocation et donc gratuitement. Il en est resté quelque chose à l'hôpital comme dans les métiers de l'enseignement. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger où l'approche est plus neutre. Un diplôme d'infirmier donne tout bêtement des compétences qui correspondent à un niveau de salaire. Et puis en France, il y a aussi la question du statut de la fonction publique hospitalière qui pèse sur la feuille de paie, explique Muriel Salle, historienne de la santé.
Pour les femmes, effectivement, cette forme de sécurité là peut les conduire à accepter un moindre niveau de rémunération comme étant le prix à payer en quelque sorte pour avoir la sécurité de l'emploi.
Et puis les infirmières ne font pas exactement le même métier en fonction des pays. En Scandinavie ou dans les pays anglo-saxons par exemple, elles font plus de gestes médicaux qu'en France. Elles sont donc mieux rémunérées. Enfin, dernière différence, le temps de travail. 40 heures par semaine en Allemagne contre 35 en France, ce qui explique en partie l'écart de salaire mensuel. Sauf que si on compare le salaire horaire cette fois, les Allemandes continuent à gagner plus que les Françaises.
Et en France, depuis début mars, 63 300 patients sont sortis des hôpitaux guéris du coronavirus. La politique et le choix que voici pour les municipales, ce sera soit un second tour dans à peine un mois, en juin, soit en janvier 2021. Et il faudrait aussi rejouer le premier tour. Deux scénarios présentés hier soir par le Premier ministre à tous les chefs de parti.
Et l'un d'entre nous est en direct avec nous. Bonjour Julien Bayou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Juin ou janvier, vous votez pour laquelle de ces deux hypothèses ?
Et nous, on choisit le fait d'appliquer toutes les préconisations pour les conditions sanitaires maximales qui ont été recommandées par le Conseil scientifique. Et à l'occasion de son avis, le Conseil scientifique explique que faire le second tour fin juin dans 5000 villes, eh bien, c'est moins problématique que refaire deux tours dans toutes les villes. Et donc, c'est vraiment une question extrêmement difficile à répondre. Mais on suit en fait les préconisations du Conseil scientifique. Fin juin, ça semble faisable, à la condition de pouvoir garantir aux citoyennes et aux citoyens que toutes les préconisations sont mises en place, et notamment le fait de fournir des masques à l'entrée des bureaux de vote. Et donc, pour ça, il faut une clause de revoyure 15 jours avant pour vérifier que l'épidémie n'a pas repris ou que le virus ne circule pas dans certaines régions.
C'est ce que préconise le Conseil scientifique. Julien Bayou, voilà. En mars, Europe Écologie Les Verts a réalisé de beaux scores à Lyon, à Bordeaux, Grenoble, Toulouse ou encore Strasbourg. Pour vous, il y a aussi ce côté élan du premier tour sur lequel vous pouvez capitaliser.
Oui, alors vraiment, c'est vraiment pas l'enjeu qui préside aux décisions. D'ailleurs, nous ne sommes pas décisionnaires de la date des élections. C'est sûr que les candidats, les candidates espèrent clore la séquence, installer les mairies et puis reprendre la vie démocratique. Il y a des endroits où on peut gagner, où on peut transformer les villes, à Bordeaux, à Lyon.
Il y a quand même un enjeu, et puis on veut gagner quand on porte les couleurs politiques d'un parti, on veut gagner, Julien Bayou. C'est normal,
évidemment.
On ne va pas vous en blâmer.
Évidemment, mais simplement, l'enjeu c'est de savoir s'il y a une sérénité du scrutin.
Certainement.
Est-ce que les Françaises et les Français vont se sentir en sécurité.
Certainement, et vous suivez.
Et vous suivez
conseil scientifique. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct.
Il avait été conçu pour accueillir jusqu'à 800 passagers, mais n'en aura jamais accueilli plus de 500. L'Airbus A380, qui n'est déjà plus fabriqué, retiré de la flotte d'Air France plus tôt que prévu. À ce géant gourmand de 4 réacteurs, les compagnies préfèrent désormais l'A350 ou le Boeing 787. Lui est soupçonné d'avoir voyagé à bord d'une malle pour instruments de musique. Carlos Ghosn, qui avait fui le Japon fin décembre pour arriver au Liban. Les États-Unis ont arrêté hier deux hommes suspectés de l'avoir aidé dans cette opération invraisemblable, un ancien membre des forces spéciales et son fils.
Europe 1. Restez avec nous dans un instant, l'Espagne menacée de crise politique. La droite accuse le pouvoir socialiste d'abus de pouvoir. Et puis nous verrons comment se passent les messes de l'ascension. Le déconfinement n'a pas encore totalement trouvé sa voie.
Il est 8h12, la suite du journal, François Geffrier, Pierre de Villeneuve.
En Espagne, le Parlement vote pour la cinquième fois la prolongation de l'état d'urgence.
Celui-ci avait commencé le 14 mars, il court maintenant jusqu'au 7 juin, mais dans l'opposition, la droite radicale dénonce un abus de pouvoir et un déconfinement beaucoup trop lent, Vincent Hervouette.
Alors la mode a été lancée il y a 10 jours à Salamanca, le cœur chic de Madrid, des gens qui déambulent avec le drapeau espagnol sur les épaules, comme des tifosi un soir de match, sauf que les matchs sont interdits, ce sont des manifestants, sauf que les manifs sont interdites, alors ils se promènent avec le masque, le drapeau comme une cape, et des petits cartons qui disent « Le gouvernement en prison, Sanchez démission, pouvoir assassin ». Vox, le parti de droite, les soutient et organise samedi prochain, dans toutes les villes du royaume, d'autres rassemblements qui se feront en voiture, avec le même mot d'ordre, non à l'état d'urgence qui est liberticide.
Mais il faut dire que les règles ne sont pas les mêmes partout, Vincent.
L'Espagne déconfine par étapes, mais pas Madrid, Barcelone, l'Andalousie, les régions les plus infectées, et cette différence de traitement aiguise les rancœurs. Le Premier ministre s'est mis à dos les présidents de région. Pablo Sanchez est très affaibli, les Espagnols critiquent l'imprudence, l'excès de com, les cafouillages, des centaines de familles endeuillées ont porté plainte pour homicide par imprudence et la gauche indépendantiste catalane a refusé de voter la prolongation de l'état d'urgence. Conséquence, il n'y a plus de majorité de gouvernement et le déconfinement tourne à la déconfiture.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Et puis ça ne vous a pas échappé, nous sommes jeudi de l'Ascension, une fête que célèbrent les catholiques, mais toujours sans aller à la messe.
Oui, malgré la décision du Conseil d'État, il reste interdit de façon absolue de se rendre dans les lieux de culte, de s'y réunir. Alors au sein des paroisses, on continue de s'adapter. Jean-Jacques Herry s'est rendu à Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé.
On a mis en place assez rapidement des messes avec caméra et retransmission sur YouTube ou Facebook. On n'est pas formé à ça au séminaire, mais on a appris beaucoup de choses techniquement pour pouvoir assurer ces temps de prière pour les paroissiens.
Tout à l'heure, à 11h15, le père Arnaud Bonassis, curé de la paroisse Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé, organisera son 90e streaming vidéo. Comme durant la Semaine Sainte et pour la fête de Pâques, à nouveau, les fidèles seront derrière leur écran pour vivre la messe de l'Ascension.
Disons que c'est un moindre mal. Pour les gens, il y a une grande souffrance de la séparation physique.
Et c'est pour cela que le curé souhaite revoir très vite les croyants s'asseoir sur les bancs de son église. Sanitairement, tout est prêt, en concertation avec le diocèse, indique-t-il.
Les églises doivent être nettoyées juste avant les célébrations et après. Cette église a 450 places assises. Ce qui est prévu aujourd'hui, si on réouvrait, c'est que les gens ne s'assoient pas un rang sur deux et ensuite une chaise sur deux uniquement. Et donc en gros, on pourrait accueillir une centaine de personnes sur 450 places assises, avec bien sûr la règle du masque, les gestes barrières et une équipe de sécurité qui bloquerait à partir du nombre atteint, les 100 personnes. Donc on est prêt pour le mettre en place assez rapidement.
Et l'espoir maintenant du père Arnaud, c'est de voir son église enfin rouvrir ses portes pour la messe de la Pentecôte à la fin du mois.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1, et puis est-ce dû au visio-messe ou juste aux séries télé? Le trafic internet français a monté de 30% en avril, mais les flux de services vidéo ont bondi de 86% sur ce mois-là, selon une étude de NetScout.
Et vous êtes dans le coup, évidemment.
Absolument.
Évidemment. Merci, c'était le journal de François Geffrier. À suivre, l'invité politique de la matinale. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. On va parler écologie ce matin, mais pas l'écologie version donneur de leçons à la sauce Juliette Binoche ou Nicolas Hulot. Non, non, on va laisser de côté les tribunes et les prophètes pipolisés du monde d'après pour évoquer les vrais enjeux d'une écologie masquée par l'urgence économique. Notre invité, la secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire, Emmanuel Wargon.
A tout de suite sur Europe 1. Et c'est l'heure de l'interview politique sur Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Ce matin, vous recevez Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et bienvenue ce matin sur Europe 1, en studio et à bonne distance. Les Français ont besoin d'air, d'espace. L'appel de la montagne en démange beaucoup. Vous êtes en charge du dossier de la réouverture des refuges de montagne dans les massifs. Est-ce que vous pouvez nous annoncer ce matin la date de réouverture ?
Oui, nous avons fini la concertation avec les élus et puis avec les gestionnaires de refuges et je vais proposer au Premier ministre pour une décision rapide que les refuges puissent tous réouvrir à partir du 2 juin. Mais réouvrir de façon un peu différente. Bien sûr, avec plus de distance à l'intérieur des refuges, donc moins de couchettes, donc moins de possibilités d'accueil, et puis beaucoup plus de sécurité, plus de nettoyage, des repas organisés de façon décalée, la capacité aussi à isoler des personnes qui monteraient et qui développeraient des symptômes après être montées dans la montagne. Beaucoup de flexibilité aussi, c'est chaque refuge qui va trouver sa propre manière d'appliquer les règles de distanciation sociale, et ce sera validé par le maire et par le préfet. Deux demandes faites à tous les passionnés de la montagne, dont je fais partie.
Conditions donc.
Lesquelles? Pas des conditions, deux demandes. La première, réservation obligatoire. On ne peut pas monter dans un refuge sans avoir réservé, simplement parce que sinon, le principe d'un refuge, c'est d'accueillir les personnes qui viennent, et on ne pourra pas accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, donc il faut savoir combien de personnes viennent. Et puis deuxième demande, signer une charte d'engagement, juste un document qui a une valeur.
Pour les randonneurs ?
Pour les randonneurs qui dit, j'ai compris que cette année ne sera pas comme les autres années, et je m'engage moi-même à être acteur de ma protection sanitaire et de celle des autres. Je ne prends pas ça comme une contrainte, je l'accepte. Je respecte les règles et je donne un coup de main.
Donc deux conditions et une date ce matin de réouverture pour les passionnés de randonnée. D'ailleurs, vous en faites partie, Emmanuel Wargon, le 2 juin avec des conditions. Dites-nous, Madame la Ministre, où est le bon sens ? Où est le bon sens ? Les parcs et les jardins sont fermés en zone rouge, exemple à Paris. Conséquence, et vous l'avez vu hier, des attroupements sur les pelouses, des invalides, intervention de la police. Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la tête ?
On n'est pas dans la même situation dans les départements de la zone rouge et de la zone verte. En zone rouge, le virus circule plus, on a plus de risques sanitaires. Les parcs sont des espaces fermés et donc la décision a été prise de
fermé au grand air quand même.
Fermé au grand air, mais plus petit, la décision a été prise de dire on laisse les grands espaces ouverts, je pense au bois de Vincennes, au bois de Boulogne en région parisienne. Les parcs et jardins, ça sera à partir du 2 juin en fonction de la circulation du virus.
Mais vous serez d'accord avec moi que plus il y a de sites et de lieux ouverts, moins il y aura de concentration de personnes. Nous sommes d'accord.
Mais regardez les plages par exemple. Les plages ont été réouvertes à la demande des maires. Le principe était que les maires pouvaient demander la réouverture et qu'elle puisse avoir lieu. Ça se passe très bien sur de nombreuses plages. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de protéger la nature. J'y reviendrai. Mais on a quelques plages dans lesquelles on a eu trop d'attroupements. Et du coup, ça a mené les préfets, et je crois dans le Finistère, à fermer quelques plages parce que voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Et là, potentiellement, il y a de la place. C'est grand, une plage. Donc c'est aussi une question de comportement. C'est aussi une question de responsabilité.
Et de compréhension. On a vraiment besoin de comprendre, d'où ma question, où est le bon sens, Emmanuel Wargon. Bien sûr, on ferme des plages quand les comportements ne sont pas là, mais on ne ferme pas les transports quand les Français n'ont pas le choix, justement, de faire respecter les conditions sanitaires.
Non, mais le principe, c'est le plus de liberté possible. On a réouvert les transports, on a réouvert la majeure partie des espaces naturels. Il y a quelques restrictions dans les départements les plus touchés par le virus, et nous espérons que nous allons pouvoir lever ces restrictions.
Responsabilisation et donc pas infantilisation. Vous avez parlé de nature. La nature, les animaux ont pris leurs aises, on les a vus, et leur place pendant le confinement. Et avec le déconfinement, eh bien, nous sommes de retour. Il faut une cohabitation harmonieuse.
En fait, on sait se protéger nous-mêmes et protéger les autres avec les gestes barrières. On a appris à changer nos comportements. Le gel hydroalcoolique, ça nous parlait pas il y a quelques semaines et maintenant on fait plus sans. Les masques, la distance, il faut qu'on apprenne à faire pareil pour la nature. La nature a eu une espèce de parenthèse enchantée dans laquelle elle a repris ses droits, plus de calme, plus de possibilités pour les oiseaux migrateurs par exemple de venir nicher sur nos plages. Quand nous revenons, par exemple sur les plages, c'était une interpellation d'Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de protection des oiseaux, faisons en sorte de ne pas aller piétiner les nids des oiseaux qui sont en train de nicher. Mais c'est aussi rester sur les sentiers, par exemple, à la montagne ou à la campagne. Ne pas piétiner la végétation. Même ne pas soulever les cailloux sur la plage, vous soulevez les pierres, en fait, vous bouleversez
Madame
la biodiversité.
Est-ce que c'est à une ministre de nous le dire, tout ça, le matin ?
Sur Europe 1 ou ailleurs.
C'est pas une leçon de morale.
Ah, bon.
C'est pas une leçon de morale. Ce que je cherche à dire, c'est que, en fait, beaucoup de choses sont entre nos mains. On a tous très envie de nature. C'est un grand week-end, il fait beau. Je pense que beaucoup de Français partiront découvrir la nature à moins de 100 km, évidemment, à proximité de chez eux. Mais on a la chance d'avoir un pays magnifique. On a un pays dans lequel la nature est belle partout. Et cette nature, on est tellement content de la retrouver, on est tellement content d'entendre le chant des oiseaux.
Bien sûr.
À nous aussi de la préserver.
La transition écologique restera une priorité, avez-vous affirmé ? Emmanuel Wargon, quand on dit cela, quand on a besoin de le proclamer, c'est que ce n'est déjà plus le cas.
Je l'ai dit parce que la question m'a été posée et c'est normal. La question nous est posée aujourd'hui. Qu'allez-vous faire de votre ambition écologique ? Et pour moi, en fait, c'est très simple. Finalement,
elle vous est posée parce qu'il y a beaucoup de doutes, justement, sur votre objectif.
Et du coup, c'est pour ça que vous me la posez aussi et que j'y réponds ce matin. Finalement, cette sortie de crise, ça peut être, ça va être un moment de vérité pour notre ambition et pour notre action écologique. Il nous est demandé, à nous, d'être au rendez-vous, que la reconstruction économique, elle intègre vraiment les dimensions écologiques.
Et donc, est-ce que le plan de relance, concrètement, de sortie de crise, aura une dimension écologique ? Parce que pour l'instant, on entend des mots, des promesses.
Alors, pour l'instant, le plan de relance, nous y travaillons, il n'est pas encore sorti. Mais quand on regarde le soutien au premier secteur économique en difficulté, qui a été décidé, qui a été annoncé, je pense par exemple au soutien à Air France, ou je pense au plan qui est en train d'être travaillé pour l'automobile. Air France, nous avons demandé à la compagnie aérienne de travailler aussi sur son ambition écologique et donc de s'interroger sur les vols
exemple,
pour les distances à moins de 2h30 du train.
Est-ce qu'il y aura donc des suppressions effectives de ces vols intérieurs où on peut effectivement prendre le train à la place ?
En tout cas, c'est une demande du gouvernement Air France au moment du soutien de faire des propositions sur ces plans de vol intérieurs pour privilégier les vols pour lesquels il n'y a pas d'alternative en train et pour réduire les vols sur lesquels il y a une alternative. Et ça sera la même question, par exemple, sur le kérosène. Le kérosène des avions, on peut progressivement passer à des carburants moins polluants, bio-kérosène. On a une question sur le poids des avions, donc on peut faire des choses. Pour les voitures, on soutiendra en priorité les voitures électriques, les voitures hybrides.
Donc ça, c'est difficultés, pardonnez-moi, de l'industrie automobile, je ne sais pas si vous allez pouvoir beaucoup instaurer de contreparties à l'heure actuelle.
En tout cas, c'est l'enjeu, c'est la volonté évidemment du ministère de l'écologie, mais ça devient la volonté du gouvernement, ça devient un sujet très partagé. Et puis il y a d'autres manières.
Mais vous n'avez pas répondu, pardonnez-moi, sur l'aspect écologique du plan de relance. Combien en termes de financement, c'est le nerf de la guerre ?
Mais
combien
ça pèse justement
en monnaie sonnante et trébuchante ?
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres manières de soutenir l'écologie dans le plan de relance, c'est d'investir massivement pour accélérer la transformation, pour accélérer la réduction des gaz à effet de serre et donc limiter le réchauffement climatique. Il y a un secteur qui est évident, c'est la rénovation des bâtiments. Les bâtiments, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre en France.
35 millions de logements en an, la France compte plus de 7 millions de passoires thermiques, de nombreux chantiers de rénovation thermique pourraient être décalés ou abandonnés sans les aides publiques. Qu'en sera-t-il ?
Alors justement, d'abord on se bat tous les jours pour la réouverture des chantiers qui avaient déjà été décidés, y compris en disant aux particuliers, à vous, à moi, si on fait des travaux chez soi, on peut reprendre les travaux maintenant. Les artisans savent faire avec des mesures de sécurité. Après, on aura besoin de soutenir ce secteur. Le soutenir pour les logements et le soutenir pour les bâtiments de bureaux, y compris d'ailleurs les bâtiments éteints. Logement, on a déjà commencé, juste un chiffre, Sonia Mabrouk, 1 million de travaux faits avec des aides d'État l'année dernière chez les particuliers, 250 000 chaudières changées, 100 000 chaudières au fioul sorties, 800 000 isolations. Donc ça y est, ça commence à décoller. L'année prochaine, nous voulons soutenir la rénovation la plus ambitieuse, la rénovation complète, celle qu'on appelle la rénovation globale, celle qui permet d'éliminer les passoires thermiques. Et sur celle-là, on va se donner des objectifs ambitieux l'année prochaine.
Bon, vous viendrez nous en parler dès qu'ils seront définis et surtout financés, c'est le plus important. Emmanuel Wargon, une question, puis on va poursuivre évidemment avec Pierre et nos auditeurs. Certains de tribune en tribune, de Juliette Binoche, en passant par Nicolas Hulot, nous font, il faut bien le dire, la leçon et appellent à changer nos modes de vie, de consommation, même à changer de monde. Est-ce que vous auriez signé une telle tribune ?
Mais on peut être que d'accord quand on dit le temps est venu d'améliorer les choses.
C'est impensif. On peut être que
forcément, on a envie d'aller dans cette direction-là. Moi, je pense qu'au gouvernement, notre rôle, ça n'est pas de signer des tribunes très générales d'interpellation. Notre rôle, c'est d'affronter le réel, d'affronter la difficulté, la complexité et de faire des choix. C'est pour ça que je vous disais que c'est un moment de vérité. Ce sont les choix que nous allons faire là, dans les semaines qui viennent, qui diront si notre ambition écologique est solide, si elle est forte. Et c'est à ça que moi je travaille tous les jours, évidemment, au sein du ministère.
Et les Français en jugeront. On va continuer à en parler avec vous, Madame la Ministre, et évidemment Pierre et les auditeurs.
Effectivement, Emmanuel Wargon et Sonia aussi, vous restez avec nous jusqu'à 8h45 pour répondre aux questions des auditeurs. Elles sont nombreuses sur le monde d'après, sur les parcs et jardins, sur les refuges, sur le plan de relance, sur peut-être une nouvelle prime à la conversion pour les voitures propres. On en parle dans un instant avec vous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Tout de suite.
La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve, avec Sonia Mabrouk et votre invité, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Vous réagissez, vous posez vos questions avec le hashtag Radio Ouverte et au 3921.
Ouais, elles sont nombreuses les questions avec le hashtag Radio Ouverte. Olivier vous pose cette question, Emmanuel Wargon. Comment le monde d'après pourra-t-il être différent du monde d'avant quand on voit l'intérêt de l'utilisation du plastique et de ses dérivés dans la lutte contre le Covid? Les gants plutôt, le plexiglas, les masques. Comment est-ce qu'on peut... Voilà. Il y a le sanitaire d'un côté, l'écologie de l'autre.
Alors forcément, le sanitaire est une priorité en ce moment. Mais déjà en ce moment, on peut avoir les bons gestes pour tous ces matériels de protection. C'est vrai qu'on voit beaucoup de masques qui sont jetés par terre. C'est l'un des combats de ma collègue Brune Poirson, de faire attention à ce que ça retourne bien dans les circuits de déchets, que ce soit bien traité. Après, progressivement, on pourra probablement imaginer des solutions qui sont un peu moins tout jetables. Et d'ailleurs, les masques, on voit aussi le succès des masques en tissu, qui sont des masques lavables, réutilisables et finalement beaucoup plus écologiques. Donc il faudra trouver de nouveau le bon point d'équilibre entre les outils de protection sanitaire qui ont été mis en place et dont on a besoin et leur recyclabilité, et ça on pourra l'inventer avec les industriels.
Il parle de plexiglas, Olivier, quand il y a par exemple une bâche dans un taxi pour protéger du chauffeur et du passager, est-ce que cette bâche à la fin on la jette parce qu'on considère qu'il y a une susceptibilité de Covid-19 ou est-ce qu'on la recycle?
Pour l'instant on la jette. Et on a besoin d'avoir des mesures de protection sanitaire. Progressivement, on aura peut-être aussi des technologies qui nous permettront de désinfecter tout ça dans de bonnes conditions et donc de pouvoir passer à du réutilisable.
Emmanuel Wargon, vous êtes secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Et justement, on va balancer entre cette urgence sanitaire et aussi l'aspect économique et social avec cette crise qui s'annonce. Beaucoup mettent en garde sur la fracture entre ceux qui angoissent pour leur fin de mois, et oui, ça revient, et ceux qui se préoccupent de la fin du monde. Est-ce que cette polarisation qui revient est potentiellement explosive? Est-ce que c'est un risque et une menace qui vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, en tout cas dans la suite, c'est qu'on soit en capacité de bien protéger les plus fragiles. Ceux qui vont souffrir, les personnes en situation de pauvreté, les personnes qui vont perdre leur emploi. On sait que le chômage va augmenter. Et donc, effectivement, on sait que ça sera difficile pour ces personnes. On a déjà commencé à les aider avec plus d'aide alimentaire, avec des primes exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander un engagement écologique si on ne prend pas en compte aussi la situation sociale. Sur l'alimentation, par exemple, tout le monde a envie de mieux manger. Mais c'est vrai aussi que le prix des produits peut être plus élevé pour le bio ou pour les produits de circuit court. Mmh. C'est là probablement qu'il faut qu'on aide aussi pour rendre les produits de qualité alimentaire et agricole disponibles à des prix acceptables.
Justement,
et que ça existe dans les marchés de producteurs.
Vous parlez de circuit court. Selon le sondeur Jérôme Fourquet, les milieux aisés pendant cette crise ont plus acheté dans les circuits courts et bio que vous vantez. Ils ont accru leur lecture écologique de la situation. Et l'autre France, qui n'a pas renoncé à ses habitudes, eh bien, on l'a vu faire la queue devant McDo, moqué d'ailleurs par d'autres sur les réseaux sociaux. La tension entre le pouvoir et le vouloir d'achat risque d'être très forte.
Et moi, je ne crois pas qu'il y a des Français qui veulent avoir accès à une vie de meilleure qualité, plus écologique, et d'autres qui ne veulent pas.
Qui n'ont pas le choix,
je pense que tout le monde a envie de manger des produits qui sont meilleurs pour la santé, dont on connaît la provenance, avec moins de pesticides, des produits pour lesquels on peut avoir confiance, avec des agriculteurs finalement de proximité. Je ne crois pas que ce soit une attente d'une élite, et ça ne peut pas, ça ne doit pas être réservé à une élite. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à lutter contre la fracture sociale dans la période qui vient. Et il y a des solutions, encore une fois, les marchés de producteurs, les producteurs, les agriculteurs qui peuvent venir vendre en direct. Ça existe dans les grandes villes, mais par exemple, on a signé un contrat de transition écologique en Corrèze avec le président du conseil départemental pour généraliser ces marchés de producteurs à l'échelle du département pour les habitants de la Corrèze. Donc, on a des solutions, pas que des solutions urbaines. prennent et pas que des solutions pour les Français les plus aisés.
Je vous rappelle le 39-21 si vous voulez poser vos questions à la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon. Justement, alors qu'on apprend à l'instant que EasyJet, la compagnie d'aviation britannique, qui annonce qu'elle veut reprendre certains vols à partir du 15 juin, essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France. Alors que justement, on s'est posé le questionnement des trajets en avion, il y a presque une philosophie, une pensée à travers ce confinement en disant peut-être qu'il faut plus prendre le train, la voiture plutôt que l'avion. Quand EasyJet, géant du low cost de l'aviation, pose ses conditions et dit le 15 juin, moi je vais reprendre en France, qu'est-ce que le gouvernement répond ?
La question c'est comment est-ce qu'on équilibre nos différents comportements ? L'avion, ça restera une solution quand on veut faire des trajets longs de plusieurs milliers de kilomètres pour lesquels il n'y a pas d'alternative ou il n'y a pas d'alternative simple. La première question pour l'avion, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller à Bordeaux ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller à Lyon ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion même pour aller à Marseille ? Où là, des alternatives existent en train rapide, évidemment beaucoup moins polluantes. Donc c'est pas l'aviation en général ou les compagnies aériennes en général, c'est la place de chacun des moyens de transport dans notre vie quotidienne.
Et la place de l'aviation low cost, on disait au début du confinement, le trafic va changer, les mentalités vont changer, on ne va plus prendre un avion à 15 euros pour aller quelque part en Europe.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à 5000 ou 2000 ou 5000 kilomètres pour quelques jours ? Finalement, c'est aussi l'occasion de redécouvrir la France. On est la plus grande destination touristique du monde. On accueille 80 millions de touristes chaque année. Et finalement, les Français partent. C'est bien que les Français partent découvrir le monde, mais c'est bien aussi que les Français partent découvrir la France. Ce sera vraiment l'occasion cette année.
Donc c'est plutôt non à EasyJet. C'est ce que vous dites en ce moment.
Mais encore une fois, on n'est pas en train de donner des leçons.
Je sais bien.
En plus,
c'est pas à vous d'arbitrer toute seule. On comprend bien. Emmanuelle Wargon, vous restez en tout cas avec nous. 39-21, c'est le numéro pour réagir, pour poser des questions à Emmanuelle Wargon. Vous restez avec nous. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h37, vous continuez de poser vos questions à Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Vous appelez le 39-21, vous écrivez avec le hashtag Radio Ouverte.
Et cette question par écrit de Stéphanie Emmanuelle Wargon, est-ce que vous allez donner des aides aux entreprises qui font des efforts pour accélérer leur transition écologique ? C'est déjà le cas, non ?
Oui, on le fait déjà très largement. Sur l'énergie, par exemple, on aide la pose de panneaux solaires quand c'est plutôt des entreprises de bureaux sur les toits ou sur les centres commerciaux. On aide aussi les changements de sources d'énergie pour l'industrie. On aide à l'achat de véhicules verts. On aide aussi pour la rénovation des bâtiments. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Et bien sûr, on va continuer et peut-être même accélérer d'ailleurs.
Non, mais en vous écoutant, je me demande pourquoi des députés ont quitté votre majorité parce qu'ils estiment que vous avez oublié justement l'écologie.
D'une certaine manière, moi je me pose aussi cette question.
Et alors que
parce que
plus à même que moi d'y répondre.
Oui, mais moi je suis pas complètement sûre de comprendre la logique au sens où c'est vraiment maintenant que le gouvernement, avec la majorité, va mettre le paquet sur l'intégration de l'écologique et du social dans le monde d'après. Alors, ils sont inquiets, c'est une interpellation politique. Après,
ils se disent pourquoi ne pas l'avoir fait avant ?
Mais d'abord, on l'a fait. Encore une fois, sur la rénovation, on a fait 1 million d'aides l'année dernière. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, excusez-moi, c'est un tout petit peu technique, mais en gros, c'est la feuille de route de la France sur sa production d'énergie pour les 15 prochaines années. C'est important. Elle a été publiée pendant la période. On dit qu'on multiplie par 5 les panneaux solaires, par 2 l'éolien, on baisse le nucléaire, on ferme les centrales à charbon. Donc on est en train de le faire. C'est un acte politique. C'est un acte politique avec des gens qui ne se ressemblent pas. Parce que entre une députée que je connais bien, Yolaine de Courson, avec laquelle on a beaucoup travaillé d'ailleurs en Côte d'Or, qui soutient le gouvernement et qui dit « moi je suis toujours à l'appui », Cédric Villani qui dit « je suis ni dans la majorité, ni dans l'opposition ».
C'est un ni-ni, mais quand même, ils ne sont plus à vos côtés.
En tout cas, il faudra quand même qu'ils choisissent. À un moment, il faudra savoir ce qu'ils votent. Et Delphine Bateau, dont je ne crois pas qu'elle ait jamais dit qu'elle soutiendrait le gouvernement, je pense que la ligne politique de ce groupe ne va pas être évidente à définir.
Une question de Sofiane. Renault va mal, l'État vole à son secours. Quelles sont les contreparties ? Écologie au programme ou juste des licenciements dans les usines françaises ?
Alors d'abord, notre priorité des priorités, c'est
pas de licenciement, le moins de licenciement possible. C'est vraiment la préservation de l'emploi. On a besoin de préserver l'emploi. On sait que l'économie française pourra repartir. Tous les emplois qui sont préservés dans la période, c'est des personnes voilà, qui gardent leurs compétences et puis voilà, c'est protecteur. Après, on discute avec Renault sur des contreparties. C'est Bruno Le Maire et Elisabeth Borne qui le font avec Jean-Baptiste Djebbari. Elles ne sont pas encore totalement définies. Les annonces seront faites là dans quelques jours. Mais c'est la même logique qu'avec Air France. Contrepartie, comment on accélère les voitures électriques, les voitures hybrides, la réduction des émissions de CO2 des voitures. Donc c'est exactement la question sur la table.
Avec une remise sur la table d'une éventuelle prime à la conversion. Les auditeurs vous écoutent.
Alors, il existe déjà une prime à la conversion hein, qui permet, lorsqu'on met au rebut une vieille voiture et qu'on achète une électrique ou une hybride ou une voiture très récente qui pollue moins, d'avoir une aide. Ça fait partie des aides sur lesquelles on travaille pour voir si on peut faire plus fort, plus vite.
Oui, sur les électriques et sur les hybrides, mais pas forcément sur les thermiques.
Pour l'instant, la prime à la conversion, elle existe aussi sur les modèles les plus récents. Et voilà, on est en train d'y travailler.
Emmanuel Wargon, on rend quotidiennement hommage, c'est tout à fait normal, à nos soignants. Il ne faut pas oublier aussi nos agriculteurs qui sont restés en première ligne. Et la sécheresse, malheureusement, menace sur le territoire. Il y a un risque, justement, que ça s'ajoute à ce que nous subissons. Combien de départements classés à risque? Et est-ce que, véritablement, on peut avoir une sécheresse, malheureusement, qui va encore alourdir les difficultés de ce secteur?
Alors, suite à la sécheresse de l'année dernière, on a eu 88 départements l'année dernière qui ont eu des problèmes sur 100, c'est-à-dire presque toute la France. Moi, j'ai souhaité que le ministère se mette en état de mieux anticiper et du coup publie dès maintenant une carte des risques. C'est la première fois qu'on le fait. Normalement, on constate le nombre de départements qui sont en restriction et en tension.
Elle est déjà disponible sur
Nous
le site du ministère.
Nous l'avons publié il y a quelques jours sur le site du ministère. Donc par définition, c'est une anticipation. Donc forcément, quand c'est une prévision, les choses peuvent évoluer. Et on a une vingtaine de départements qui sont très à risque et une cinquantaine qui globalement sont à risque. C'est moins que l'année dernière et ça se concentre un peu plus dans la partie est du pays. Ceux qui sont le plus à risque sont dans le Massif central. C'est autour de l'Allier, de la Loire, de la Haute-Loire. C'est aussi le sud de l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté. Et les risques viennent du fait que les nappes phréatiques, donc les grandes nappes d'eau, ne se sont pas totalement reconstituées, que les sols sont très secs et que la pluviométrie a été basse. Face à ça, il faut agir à court terme et à moyen terme.
À court terme, pour les agriculteurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites?
Mobiliser tout le monde sur le terrain pour anticiper comment est-ce qu'on va partager l'eau cet été.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Emmanuel Wargon d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Et merci à Sonia Mabrouk. On se retrouve bien sûr demain et tout à l'heure avec toujours le hashtag Radio Ouverte et le 3921. On parlera de cinéma avec le producteur Jean Labadie, de toutes ces salles de cinéma que vous voudriez voir rouvrir. Nous aussi, on en parle avec lui. 3921. Vous restez avec nous.
Et à tout de suite avec la revue de presse, Nicolas Cantelou et Julie sur Europe 1. Europe 1, il est 8h46.
Et voici Nicolas Cantelou et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. Et tout de suite, les titres de l'actu avec vous, Pierre de Villeneuve.
Oui, ma chère Julie, bonjour, bonjour à toutes nos auditeurs, à toute l'équipe, Omblin, François Giffrier, Nico, Rémi, Laurent Cabrol, voilà, tout le monde est là. Merci de nous accompagner en ce jeudi 1er mai. Jusqu'à quelle heure on termine, Julie? Tiens, à quelle heure on termine, Julie?
9h30, oui, oui.
Oula. Oui, bon. Écoutez, on essaiera d'aller au moins jusqu'à 9h15. Bienvenue. Allez, on se motive. J'ai l'œil du tigre ce matin. La pêche. La grosse patate de la pataterie. Prêt à mordre l'info à pleines dents avec nous ce matin. Et...
Pierre ?
Non, excusez-moi, j'ai fait le micro-sieste. Prêt à défoncer l'actu. Allez, l'actu, on y va, sérieusement. C'est les municipales. Oh là là, j'accélère. Édouard Philippe a proposé hier au chef de parti d'en organiser le second tour, soit en juin, soit en janvier 2000. Attendez, je consulte. Oui, 2021. Bah, écoutez, ce sera janvier 2021. Hein, il faut faire ça en janvier 2021, évidemment.
Tiens, tiens, le maire de Lyon avec nous. Bonjour, Gérard Collomb.
Oui, bonjour. Écoutez, compte tenu du fiasco du premier tour, vous avez vu la différence de rythme hein, avec Monsieur Devineau. Je suis réputé pour ma célérité. Oui, compte tenu du fiasco du premier tour avec les conséquences dramatiques que l'on connaît, on ne peut pas, je le dis sur votre antenne, organiser ce second tour en juin. Je m'y oppose avec toute la force que l'on me reconnaît.
Oui, vous êtes inquiet, ça s'entend, inquiet d'un point de vue sanitaire ?
Non, d'un point de vue de branlé. J'ai écouté, oui ça vous fait peut-être rire, mais j'ai déjà pris une branlée au premier tour. Je ne suis pas, comprenez-moi, pressé d'en prendre une deuxième. Voilà. Même janvier 2021, franchement, c'est trop tôt. Il faut... Moi je pense que raisonnablement, il faudrait décaler au moins jusqu'à septembre 2033.
Hein, c'est ça, oui.
Et puis après, ok, on passe à autre chose. Vous savez, j'aurais envie de faire autre chose, je ne voudrais pas... Vous savez, laissez la politique me voler ma jeunesse.
Eh bien, on verra ça, Monsieur Collomb. Allez, aujourd'hui, c'est le début du week-end
de l'Ascension. On verra ça, Monsieur Collomb.
Réagis-lui. C'est le début du week-end de l'Ascension. Hein. En ce jeudi, on attend beaucoup de Français sur les plages. On est en direct de la plage de Deauville avec Nelson Montfort.
Oui, oui, tout à fait, ma chère Julie, mon cher Pierre. Écoutez, oui, je suis à Deauville, pour tout vous dire, en chemise, cravate, maillot de bain à fleurs hawaïennes. Oui, oui, c'est stylé, certains me l'ont dit. Écoutez, pour suivre ensemble ce premier tour de championnat interdépartemental de battage de steak. Et déjà, un premier concurrent s'approche. Monsieur, bonjour, monsieur. Monsieur, si vous permettez, peut-être répondre à quelques questions. D'où venez-vous? Est-ce que vous respectez la règle des 100 km, monsieur?
Déjà, bon, la règle à quoi? Moi, je m'en bats les steaks. Hein. Franchement, moi, ça fait 3 mois qu'on se les tape. Alors là, franchement, premier week-end où on peut sortir, j'ai foutu le filet à crevettes et la glacière à pique-nique dans le coffre de mon taxi, et on n'a pas intérêt à me faire chier. Alors, écoutez, bon, oui, alors que je crois que Pierre a la même intuition que moi, j'ai la... Quel est votre prénom, monsieur? Alors, on est... Voilà, nous en doutions. Alors, ma chère Julie, ce participant donne le coup d'envoi d'une journée qui, nous en sommes sûrs, sera riche en changement foutisme, alors que déjà, j'aperçois d'autres participants qui sont en train d'arriver à pas feutrer chacun avec sa technique. Alors il y a celui qui se met oui, alors lui il s'en fout totalement du masque apparemment, celui qui s'en tape de la distanciation sociale, celui qui s'en cogne de la règle sur l'alcool, celui qui s'en tamponne le coquillard avec une pelle à gâteau de l'interdiction d'être statique. Tout ça se fait avec une maîtrise, je dois le dire, un savoir-faire typique de chez nous. Écoutez, je préfère, si vous le permettez, pardonnez-moi Pierre, pour cette... Je préfère m'éloigner, ne pas rester en ligne avec vous. Je n'ai pas envie d'être contaminé, pardonnez-moi
Oui, non, mais c'est bon, Nelson.
J'ai un droit de retrait également.
Oui, reculez de quelques mètres au besoin. Reculez.
Non, ma chère Julie, non, je ne vais pas reculer de quelques mètres, je vais reculer de quelques pays, hein, si vous le permettez, parce que là, ce serait limite moins dangereux de se baigner dans une piscine de glaire à vous, Paris.
Oh là là. Merci, Nelson. Emmanuel Macron a annoncé...
Merci, Nelson.
Emmanuel Macron a annoncé les piliers de la réforme de l'hôpital. On va demander son avis à un professionnel de santé. Bonjour Philippe Douste-Blazy.
Oui, en effet, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le bloc. Madame Julie, Monsieur Vineau. Monsieur Vineau, pardonnez-moi, juste une petite aparté. Oui. Je vous prends en antenne. Non, quoi que je vous le dise directement, puisque je pense que personne n'écoute le premier. Je me suis trompé dans ma prescription pour vos vitamines. J'ai écrit Donormil 200 par erreur. Hein, c'est ma faute. Vous me redonnerez votre ordonnance hors antenne, que je corrige. Voilà, je vous en prie.
Alors, monsieur Douste-Blazy, oui. Nos hôpitaux sont malades, mais pourtant, on entend partout qu'on aurait le meilleur système de santé du monde. Hein. Tout le monde dit ça.
C'est vrai, on l'entend partout. Nous avons le meilleur système de santé du monde. Pourquoi? Parce que nous avons pris le meilleur de chaque pays. Notre système de santé a les compétences technologiques des Américains, la rigueur du système allemand. Et nos infirmières ont les salaires du Bangladesh. Voilà, le meilleur de chaque pays. La spécificité de chaque pays. C'est pour ça qu'on commence que ça commence un peu à gueuler, pour tout vous dire.
Bon, alors vous
c'est
êtes
mon
membre...
analyse, et je la partage.
Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut du professeur Raoult. Il est incroyablement populaire à Marseille. Hein. Des taxis l'ont acclamé à la sortie de son institut. Des banderoles sont déployées. Quelqu'un s'est même fait tatouer son visage. Non, mais ça devient une rockstar. Hein.
Oui, effectivement. C'est une juste récompense pour le professeur Raoult, pour son travail, à mon avis. Mais attention, c'est un travail aussi collectif. Hein. Collectif, c'est sûr que pour l'instant, le nombre de jeunes filles qui se sont fait tatouer Philippe Douste-Blazy sur leur épaule ou sur leur omoplate, c'est assez calme. Pareil, au niveau groupie qui me jette leur petite culotte, c'est assez calme aussi. C'est toujours comme ça, vous savez, dans un groupe, c'est le chanteur qui ramasse.
Ah bah oui, Didier Raoult qui a déclaré que l'épidémie à Paris avait
faux,
été
ça.
Mal gérée. L'épidémie à Paris aurait été mal gérée, hein, selon Didier Raoult. Vous êtes d'accord avec lui ?
Alors, vous savez, cher Julien Clerc, notre institut marseillais est un institut sérieux. Hein. Les instituts parisiens ont peut-être eu des ratés, ou sont peut-être moins bons que nous. Peut-être qu'il faut que les instituts parisiens vont niquer leur mère sur la canne-canne-canne-canne-cabellière. Je suis d'accord. Oh. Pardonnez-moi, c'est l'enthousiasme. N'empêche qu'il y a eu plus de personnes sous respirateur artificiel là-bas. Hein. Donc j'ai envie de dire, Paris, on t'entube.
Merci, M. Douste-Blazy. Allez, on va rester à Marseille.
C'est drôle, ça.
J'attendais.
On reste à Marseille où les plages ne sont toujours pas ouvertes. Bonjour, Jean-Claude Godin.
Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, M. de Villeneau.
Bonjour, M. Godin.
Oh, ils sont taquins avec vous, mais c'est de bonne grâce. Alors, écoutez, pourquoi pas, je suis pressé, je ne suis pas... Pourquoi je ne suis pas pressé de rouvrir les plages à Marseille? Mais enfin, mon petit, j'ai quel âge?
80 ans, je crois, mais vous faites moins, hein, vous faites beaucoup moins.
Oh, elle est mignonne, vous l'avez dit. Non, j'ai 80, donc j'ai passé l'âge, franchement, d'aller draguer la cagole sur la plage de l'Abricotier. Hein. Ne me confondez pas avec Florent Manaudou.
Hein. Ah non, il y a peu de chance, là.
On arrive, a priori, à nous distinguer, même à 100 mètres.
On y arrive, oui, oui. Vous n'envisagez pas la réouverture avant le 2 juin, c'est ça, Monsieur Godin ? Mais pourquoi cette lenteur ?
Alors, pourquoi cette lenteur ? Déjà, parle-moi meilleur. Hein. Oui, je sais où tu habites. Hein. On sait tous où tu habites, Leclerc.
Oui, oui.
Hein. Bon, bref, alors, d'un côté, j'ai Macron qui demande de relancer la machine économique, et de l'autre, on me demande d'ouvrir les plages. On ne va pas se mentir. Marseille, on n'est pas une ville d'exaltés, d'acharnés du boulot. Hein. Si j'ouvre les plages, les Marseillais vont recommencer à bosser en 2022. Hein, heureusement que les mines étaient dans le nord, parce que chez nous, elles fermaient au bout de 8 jours, vous comprenez?
Alors, les plages vont rouvrir, mais à condition d'être des plages dynamiques.
Non, mais franchement, Franchement, non, là, alors là, la plage dynamique, et pourquoi pas la mairie dynamique aussi. Non, ça c'est encore, pardonnez-moi de le dire, une invention de bureaucrates, de parisiens. Non, qu'est-ce que c'est que Non, franchement, la plage, ça devient un triathlon permanent, alors, hein, vous voulez quoi? Qu'on meure d'une crise cardiaque à faire courir nos petits vieux par une température de 65 degrés? Hein? Oui, mais c'est Marseille, hein, on rajoute toujours... Cabrol le sait, oui, bon bref. Non, les seules personnes qui courent à la plage, c'est les pickpockets qui partent en courant avec votre sac éventuellement. Hein, mais sinon, il faut être fada pour faire du sport.
Merci à Nicolas Canteloup et Julie Nicolas Canteloup que vous retrouvez bien sûr en podcast sur europe1.fr.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, le journal de 9h.
Oui, et juste après, à nouveau le hashtag Radio Ouverte et le 3921 pour nous joindre. Ce matin, nous allons parler cinéma avec Jean Labbadie, producteur, distributeur de films, producteur de Pinocchio, par exemple, des Misérables aussi. Les cinémas, vous les attendez, vous voudriez qu'ils rouvrent, nous aussi. Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez regardé pendant ce confinement? Vous êtes fan de cinéma? Vous nous le dites, 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
Il est 9h, le journal est présenté par Hélène Zellamy.
des retraités arrivés du Haut-Rhin, sans déclaration, sans attestation. Et très sincèrement, ils nous disent qu'ils vont en villégiature, ils vont visiter la Méditerranée. C'est vraiment le cas qui est inacceptable.
Policiers et gendarmes aux aguets, ils sont mobilisés dans toute la France pour faire respecter la règle des 100 km. De nombreuses plages rouvrent aujourd'hui avec interdiction d'y bronzer. En revanche, d'autres ferment en Bretagne à cause des incivilités. La date du second tour des municipales toujours en suspens. Édouard Philippe doit trancher entre deux hypothèses, le 28 juin ou janvier 2021, mais juin arrive très très vite.
Dans la mesure où il a été répété qu'on ne pouvait pas tenir une campagne électorale, alors il nous semble impossible de pouvoir faire un scrutin le 28 juin.
Et puis un coup de pouce au producteur de maroilles, vous savez ce fromage qui sent si bon, le conseil départemental de l'Aisne en achète 4000 à des producteurs locaux.
Quand il y a eu le confinement, pendant 4 semaines on a arrêté de fabriquer parce qu'on ne vendait plus rien en fait. Alors là depuis la semaine dernière on recommence à faire des heures, mais ça aide à repartir.
Et après ce journal, Pierre ?
On parle de cinéma, secteur complètement à l'arrêt avec la crise du coronavirus. On en parle avec le producteur, distributeur de films Jean Labadie, avec vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Au week-end, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Vous êtes sans doute nombreux à profiter de ces 4 jours pour vous évader, mais si l'appel de la mer ou de la campagne est trop fort et vous incite à parcourir plus de 100 km à vol d'oiseau, attention au contrôle. Dans le sud-est, plus de 800 gendarmes sont déployés, dans les Bouches-du-Rhône, 400 dans le Vaucluse. Ils regardent de près les plaques et les attestations. Reportage près d'Avignon, Stéphane Frangy.
Le tri est fait par les gendarmes comme Alain sur la base des plaques d'immatriculation.
Alors que les plaques n'ont plus rien à voir puisqu'on est libre de mettre n'importe quel numéro de département. On peut mettre l'outre-mer, on peut mettre ce que l'on veut.
Ce qui se vérifie avec Alice au volant d'une berline de près.
Ma voiture étant tombée en panne, on en a prêté une mais qui est immatriculée en 92. Je me fais arrêter tout le temps, c'est juste... Depuis le 11 là, je crois que j'en suis déjà en quatrième.
Et pour les circulations au-delà de 100 km du domicile, des justificatifs sont exigés. Mais tout n'est pas toujours en règle, comme pour ce monsieur.
Je suis allé voir ma mère, qui est très âgée, qui est toute seule depuis 2 mois. On fait une attestation comme quoi on va la voir. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire une attestation comme quoi je revenais d'aller la voir.
Au cas par cas, le capitaine Jean-Pierre Ayassa de l'escadron de sécurité routière du Vaucluse applique une tolérance, mais jusqu'à une certaine limite.
L'exemple, la dernière fois, des retraités arrivés du Haut-Rhin, sans déclaration, sans attestation. Et très sincèrement, ils nous disent qu'ils vont en villégiature, ils vont visiter la Méditerranée. C'est vraiment le cas qui est inacceptable.
Pas de verbalisation au final ce soir-là, mais un gendarme nous glisse hors micro qu'il se doute bien que certains tenteront leur chance au cœur de la nuit pour éviter les contrôles. Avignon, Stéphane Frangy, Europe 1.
Soleil et chaleur donnent évidemment des envies de plage, même si on n'a pas le droit d'étaler sa serviette.
En Corse, la quasi-totalité des plages rouvre ce matin, une quinzaine dans les Bouches-du-Rhône, pas encore celle de Marseille. En Bretagne, on enclenche au contraire la marche arrière. Trop d'incivilité, pas assez de distanciation. 6 communes du Morbihan et du Finistère demandent à la préfecture de fermer à nouveau plusieurs plages. Écoutez Patrice Faure, préfet du Morbihan.
Quelques maires ont compris qu'ils ne parvenaient pas à garantir le respect des arrêtés préfectoraux parce qu'il y a des incivilités, parce qu'il y a le non-respect de la biodiversité, mais aussi parce que certains se sont fait insulter, il y a eu des dégradations également. Je ne laisserai pas quelques individus permettre la diffusion de ce virus, ça pourrait générer un nouveau cluster. Et là, conduire à ce que nous reconfinions l'ensemble du département et donc les forces de l'ordre seront déployées. Et la consigne, c'est de verbaliser tout ce qui ne conviendra pas aux arrêtés préfectoraux que j'ai pris.
Le préfet du Morbihan au micro européen de Charles Guyard. Sachez aussi que le maire de Saint-Malo veut rendre les masques obligatoires de 11h à 18h dans certaines rues très commerçantes, en tout cas pendant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.
Quant aux Parisiens, ils sont à l'affût du moindre centimètre carré d'herbe pour s'allonger. Hier, il y avait foule sur l'esplanade des Invalides. Ce sera sans doute à nouveau le cas aujourd'hui.
Et la police a dû intervenir pour rappeler les consignes et disperser les groupes un peu trop nombreux. Tous les parcs et jardins restent d'ailleurs fermés dans les 4 régions en rouge, l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, si on se réfère à la carte présentée par le gouvernement il y a 2 semaines.
Pourtant, si on tient compte des mêmes indicateurs, une grande majorité de la France devrait passer au vert, Mathieu Charrier.
Pour mettre au point ces cartes, le gouvernement s'est appuyé sur 3 critères. Le premier, c'est la disponibilité des tests. Et à en croire les autorités, toute la France est en vert. Le deuxième critère, c'est celui de la proportion de patients qui se présentent aux urgences pour suspicion de Covid-19. Là aussi, aujourd'hui, il y aurait une grande majorité de verts, excepté le Val-d'Oise et Paris, qui seraient en orange et rouge. Enfin, le dernier indicateur concerne les lits en réanimation occupés par des patients Covid-19. Et là encore, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté seraient en vert, quelques touches d'orange dans le Grand Est, notamment dans le Haut-Rhin, et du rouge en Île-de-France. Donc la carte finalisée, actualisée, donnerait une France désormais toute verte, sauf en Île-de-France qui resterait rouge. Mais les nouvelles cartes ne seront communiquées qu'en vue du 2 juin, rappelle la Direction Générale de la Santé, probablement par le Premier ministre lui-même en fin de semaine prochaine. Et surtout, elles prendront en compte de nouveaux indicateurs, notamment le nombre de tests effectués par département et bien sûr leurs résultats. Donc c'est finalement toute la carte qui pourrait se retrouver chamboulée.
Mathieu Charrier, pour éviter de nouveaux foyers de contamination, à Lille, une campagne de dépistage de grande ampleur a commencé hier au commissariat central. 300 tests hier après-midi, ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Un millier de fonctionnaires doivent être dépistés. Tests massifs également à l'abattoir Kerméné dans les Côtes d'Armor. Au total, 109 cas positifs ont été décelés.
Et les salariés de Renault Sandouville reprennent le travail ce soir. Le site avait dû fermer sur décision de justice à la demande de la CGT.
Europe 1, il est 9h05.
Dans quelques 5000 communes, hein, presque 5000, les habitants ne savent toujours pas quand ils pourront voter pour le second tour des municipales. Fin juin, l'année prochaine, c'est toujours le mystère.
Hier soir, Édouard Philippe a évoqué la question avec les chefs des partis politiques, Adrien Beck, et rien n'est tranché.
La décision n'est pas prise, elle ne sera ni simple ni consensuelle. Voilà les mots d'Édouard Philippe hier soir devant les chefs de parti. Comme les maires, le Premier ministre penche pour la date du 28 juin. La campagne serait alors réduite et très encadrée. Impossible, disent le centriste Jean-Christophe Lagarde et l'insoumis Alexis Corbière.
Je ne vois pas comment on fait une campagne électorale digne de ce nom pour des élections municipales de proximité, alors qu'en réalité les électeurs ne pourront pas rencontrer leurs candidats et les candidats pas parler réellement à leurs électeurs.
Dans la mesure où il a été répété qu'on ne pouvait pas tenir une campagne électorale, alors il nous semble impossible de pouvoir faire un scrutin le 28 juin. Sans quoi, finalement, c'est un peu la prime aux élus sortants.
Mais si ce n'est pas en juin, impossible de rejouer l'élection à l'automne, a prévenu le Premier ministre. Calendrier trop serré entre la rentrée scolaire et le vote du budget au Parlement. Il faudrait donc attendre janvier 2021. Édouard Philippe va maintenant devoir trancher vite. Le gouvernement doit rendre un rapport au Parlement d'ici vendredi. En cas de second tour en juin, il devra impérativement être convoqué avant la fin de la semaine prochaine.
La politique encore, vous le savez, en début de semaine, 17 députés marcheurs et ex-marcheurs ont décidé de former un nouveau groupe à l'Assemblée, faisant perdre la majorité absolue à La République En Marche.
Oui, et invité d'Europe 1 ce matin, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, a fait part de son incompréhension.
Moi, je suis pas complètement sûre de comprendre la logique, au sens où c'est vraiment maintenant que le gouvernement, avec la majorité, va mettre le paquet sur l'intégration de l'écologique et du social dans le monde d'après. Alors, ils sont inquiets, c'est une interpellation politique. Après,
Ils se disent pourquoi ne pas l'avoir fait avant.
Mais d'abord, on l'a fait. Encore une fois, sur la rénovation, on a fait 1 million d'aides l'année dernière. On dit qu'on multiplie par 5 les panneaux solaires, par 2 l'éolien, on baisse le nucléaire, on ferme les centrales à charbon. Donc on est en train de le faire. C'est un acte politique. C'est un acte politique avec des gens qui ne se ressemblent pas. Parce que entre une députée que je connais bien, Yolaine de Courson, qui soutient le gouvernement et qui dit « moi je suis toujours à l'appui », Cédric Villani qui dit « je suis ni dans la majorité, ni dans l'opposition ».
C'est un ni-ni, mais quand même, ils ne sont plus à vos côtés.
En tout cas, il faudra quand même qu'ils choisissent. À un moment, il faudra savoir ce qu'ils votent. Je pense que la ligne politique de ce groupe ne va pas être évidente à définir.
La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon, sur Europe 1 ce matin. La compagnie britannique EasyJet compte reprendre certains vols à partir du 15 juin, annonce ce matin surtout des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France. Sa rivale Ryanair a déjà annoncé une reprise des vols en juillet. Fini les Paris-New York en A380, les 9 appareils d'Air France KLM restent désormais au sol. Pas assez rentables, trop polluants. Ils seront remplacés par des avions nouvelle génération comme l'A350 ou le Boeing 787. À propos de la crise de l'aérien, la Lufthansa devrait être sauvée par le gouvernement allemand. L'État fédéral prendrait une importante participation dans la compagnie. Et cela dans le cadre d'un plan de 9 milliards d'euros, dont 3 milliards de prêts.
Alors on en parle moins, hein, évidemment, mais il faut soutenir la filière du maroilles, ce fromage carré à la croûte orange et à l'odeur. On va dire puissante.
Voilà, c'est un euphémisme. Le conseil départemental de l'Aisne vient d'en acheter 4000 chez 7 producteurs. Ils sont distribués aux associations caritatives. Pour Bruno Meurat, c'est une aide bienvenue après des semaines sans rien vendre, ou presque.
Il n'y avait plus du tout de demande. Toutes les commandes, les précommandes qui étaient déjà faites, tout a été annulé. J'ai fait moins 80% pendant le temps du confinement, je fais moins 80% de chiffre d'affaires.
En fait, c'est tout bénef pour le département parce que, en plus de vous aider, acheter du maroilles, ça aide à faire respecter la distanciation sociale.
Oui, pour garder un peu de distance grâce à l'odeur, oui, c'est possible. C'est un fromage qui a du caractère. Maintenant, il sent plus fort qu'il n'a de goût, en fait. C'est un peu comme le camembert, quoi.
Voilà, un fromage qui a du caractère. Et dans le café, il paraît que c'est bon. J'ai jamais essayé.
Vous avez jamais essayé?
Ah bah, au petit déjeuner, c'est une
idée. Il faut essayer.
On va tenter tout de suite.
Là, vous pouvez, parce que le petit déjeuner se transforme en déjeuner, voire en dîner pour nous. Hein, qui c'est nous ça. Levons au milieu de la nuit. Merci beaucoup, Hélène Zélani. Et alors, Laurent Cabrol, il trempe son maroilles dans le café, lui?
Ouais, j'aime bien le maroilles, c'est un bon... pas dans le café, mais c'est bon, c'est un bon fromage.
D'accord.
Le matin, ouais, j'en prends. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Bah, pas de maroilles, en tout cas, mais la météo, peut-être.
Ouais, bah, c'est une météo, franchement, il n'y a pas grand-chose à souligner, hein, dans la mesure où il fait beau. Il fait beau partout, et nous aurons du soleil en tout lieu, pratiquement sans exception, avec des températures estivales, entre 24 et 30, hein, je ne vais pas trop aller dans le détail, 30 à Paris, 27 à Nantes, 26 à Belfort, 24 à Brest, à Caen et à Boulogne-sur-Mer. Ce sont des températures très, très modérées, hein, qui n'ont rien d'excessif, mais en même temps, elles sont sympas. Alors demain vendredi, ça sera moins beau, avec un air venu de l'océan qui va pousser des nuages, le temps sera maussade sur la Manche, sur l'Atlantique. Samedi, alors ce temps maussade va gagner pratiquement toute la France. Comme il va faire chaud, eh bien, nous aurons des orages. Et ce, sur les régions de l'Est, essentiellement, sur le Massif central, le Sud-Ouest, la Bourgogne, le Poitou-Charente. Il ne fera pas trop mauvais sur les régions de l'extrême Nord, notamment sur la Manche. Puis dimanche et lundi, alors là, c'est flagrant. C'est le retour explosif du soleil, de la chaleur et d'un temps estival. Et ce sera pratiquement la même donne tout au long de la semaine prochaine.
Voilà. Laurent Cabrol.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Pierre de Villeneuve, nous allons parler cinéma.
Oui, matinale prolongée, rien que pour vous, au 39-21, avec le hashtag Radio Ouverte, on va parler de cinéma. Et quand vous allez au cinéma, parfois vous avez l'écran et il y a écrit les films Le Pacte. Et bien vous savez, ce sont les producteurs Le Pacte. Et c'est Jean Labadie qui est distributeur de films et fondateur de cette société qui sera là avec vous pour parler de ce secteur en crise. Vous appelez le 39-21 et bien sûr le hashtag Radio Ouverte.
Jusqu'à 9h30, la matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et nous parlons cinéma avec vous. Est-ce que aller voir des films dans les salles obscures, ça vous manque? Vous réagissez, vous témoignez au 39-21 avec le hashtag Radio Ouverte. Votre invité, Pierre, c'est le producteur et distributeur de films, Jean Labadie.
Bonjour Jean Labadie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est sympa d'être là de bon matin avec vous. Je le disais tout à l'heure, c'est Le Pacte, c'est absolument mythique. C'est-à-dire que dans ma génération, voilà, ce sont les films. On voit, on entre au cinéma, on a son pop-corn ou pas d'ailleurs. On s'installe tranquillement, les lumières se tamisent et là, tout d'un coup, les films Le Pacte. Voilà. Donc c'est vous Le Pacte, c'est vous le fondateur de cette société. Vous êtes pleinement concerné par ce secteur qui est totalement à l'arrêt depuis le début du confinement. Qu'est-ce que vous avez vous comme réponse de la part du gouvernement déjà sur la réouverture des salles?
Alors pour l'instant, on n'a pas encore de date puisque c'est fixé normalement au 2 juin, la date à laquelle on passera dans une nouvelle période de la prochaine fin de l'épidémie. Et si vous voulez, ce qu'on a comme rumeur, c'est une ouverture le 1er juillet. Mmh. Mais par contre, on manque un tout petit peu encore des conditions dans lesquelles seront faites cette ouverture. Si ce n'est que, évidemment, il y aura toutes les précautions qui devront être prises pour garantir la sécurité à la fois des gens qui travaillent dans les salles et des spectateurs.
Alors justement, une question de Mickaël à l'instant, alors qu'on devrait être en plein festival de Cannes, l'annulation de Cannes, est-ce que c'est une grande perte pour vous les producteurs?
L'annulation du Festival de Cannes, c'est une énorme perte pour tout le secteur. Bien entendu, parce que à la fois, le Festival de Cannes est un énorme marché, c'est-à-dire que c'est un endroit où nous rencontrons des producteurs, des metteurs en scène, des scénaristes, et où nous prenons des décisions d'acquisition ou de coproduction ou de production de films. Et donc, le temps que nous allons perdre en n'ayant pas ces rencontres va arrêter un tout petit peu la marche en avant du cinéma, mais c'est aussi surtout un endroit où se découvrent des films. Et c'est vrai que le Festival de Cannes a cette extraordinaire force de mettre en avant des films qui viennent de partout dans le monde. Et c'est vrai que si on regarde l'année dernière l'extraordinaire sélection qu'il y avait, comment un film comme Les Misérables aurait-il pu exister s'il n'y avait pas eu cette aide formidable, ce coup de projecteur qu'a été la projection de Cannes. C'est d'ailleurs un peu la même chose pour le film de Bong Joon-ho, qui a fait 2 millions d'entrées, ce qui est quand même extraordinaire pour un film venu de Corée.
Alors, d'autres questions pour vous avec le hashtag Radio Ouverte. Pierrick, par exemple, qui se demande cette question. En fait, on l'a tous en tête, cette question. Pensez-vous que les gens vont vraiment retourner dans les salles avec les risques sanitaires, d'autant qu'avec Netflix et toutes les plateformes, bah, plus vraiment besoin de se déplacer?
Alors, bien sûr que les gens vont retourner dans les salles, d'abord parce qu'il n'y a rien d'équivalent à l'expérience de voir un film en commun sur un très grand écran.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
Ah bah, je pense que ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme aller au foot et être dans le stade. On voit bien
il y a une
que
communion.
Quand même...
Alors ça, c'est intéressant parce que autant je suis bien d'accord avec vous, voir dans des grandes salles avec des sounds, des Dolby Sound, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un son absolument extraordinaire et une qualité d'image, ça je veux bien. Mais là, vous je n'y avais jamais pensé, mais vous parlez de la communion tous ensemble pour voir une œuvre, un film.
Ah ben je crois qu'il n'y a rien d'équivalent au fait de toute façon d'être ensemble pour aller voir un spectacle quel qu'il soit, que ce soit un concert, que ce soit une pièce de théâtre et bien entendu du cinéma, parce que le fait d'avoir à côté de vous des gens que vous ne connaissez pas et qui réagissent en même temps que vous aux mêmes émotions, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Et je veux dire que tout le monde sait qu'une comédie est d'autant plus drôle si toute la salle rit, comme un film qui fait peur et d'autant plus drôle si toute la salle saute sur son fauteuil. Je crois que c'est irremplaçable.
Alors ça c'est...
Oui.
Et il y a une question assez, j'allais dire, assez amusante. Bah, il n'y a rien d'amusant parce que il n'y a rien d'amusant dans la situation de la crise sanitaire qu'on vit. Mais Samuel pose cette question. Moi j'ai peur qu'on ait que des films catastrophes sur les épidémies dans les 5 ans à venir.
Alors... Il y a toujours évidemment des films qui s'appuient un tout petit peu sur ce qui se passe dans le monde, mais je crois franchement que la communauté cinématographique mondiale est en train de souffrir suffisamment du Covid pour ne pas avoir l'envie de faire immédiatement des films qui nous rappellent ce triste passage. Et bon, il y aura bien sûr, hein, c'est évident que nous trouverons des films Covid qui seront sûrement d'ailleurs plus des films d'horreur que des comédies ou que des drames psychologiques. Mais je ne crois pas non qu'on aura une invasion de films de ce type.
Jean Labbadie, producteur, distributeur de films, du film Le Pacte, qui produit notamment Les Misérables et Pinocchio. Vous restez avec nous dans un instant, 39-21, vous réagissez en direct.
Malgré le déconfinement qui débute, nous avons encore beaucoup de choses à nous dire.
Nous sommes ensemble et en direct du studio Coluche jusqu'à 1h du matin, chers amis.
La libre antenne d'Europe 1, tous les soirs, au cœur de la nuit, Olivier Delacroix et Sabine Marin, avec bienveillance, sont à votre écoute.
Ce soir, la porte vous est grande ouverte.
La libre antenne d'Europe 1, c'est votre espace d'expression, de confidence et de partage.
Je sais que dans votre émission, on peut parler.
Merci, en tout cas, c'était un très bon moment de partage avec vous.
Rendez-vous 7 jours sur 7. À partir de 22h30.
Leclerc.
Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres même sur le bio.
Comme du 19 au 30 mai chez Leclerc, avec le pack de 4 yaourts bio lait 2 vaches framboises de 4 x 115 grammes, avec 30% de réduction immédiate à 1,07€, soit 2,33€ le kilo. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Chez Leroy Merlin, vous aider à prendre soin de votre maison, c'est notre priorité. Alors quand vous nous dites...
Chez moi, je n'ai pas de rideau car j'adore quand c'est lumineux. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vis-à-vis.
On vous répond. Jusqu'au 30 juin, pendant l'opération Vivons les beaux jours, profitez de moins 20% sur les stores jour-nuit pour vous cacher des voisins, tout en laissant passer la lumière. Et pour 1€ de plus, faites recouper votre modèle à vos mesures.
Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin.
Voir conditions en magasin.
Entendu chez vous pendant le confinement.
Ah non, mais je fouille dans mes vieux placards, c'est comme si je faisais du shopping.
J'ai mis un feu de cheminée en vidéo sur mon ordi, comme si j'étais à la campagne.
Partez vraiment, sans aller trop loin. Profitez des offres Citroën Move in France. Votre Citroën disponible immédiatement à des conditions de financement exceptionnelles. Zéro apport et zéro loyer avant le 1er septembre.
Citroën.
LLD 48 mois, 40 000 km, réservé aux particuliers jusqu'au 31 mai, hors véhicule électrique, sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Tu fais que c'est bio, mais des prix aberrants.
Des prix bas toute l'année, ça serait bien qu'on puisse tous manger bien et bio, quoi.
Chez Aldi, même pendant les semaines du bio, on ne fait pas de promo sur le bio. Et oui, nous, on préfère vous le proposer à prix bas toute l'année. Comme par exemple, le poulet fermier bio Origine France au prix de 7,99€ le kilo.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
La pièce d'environ 1,5 kg, offre valable jusqu'au 15 juin dans la limite des stocks disponibles. Et pour continuer à vous protéger, des masques à prix coûtant sont disponibles par lot de 10 directement à la caisse.
La matinale d'Europe 1 jusqu'à 9h30, et cette question que nous vous posons, êtes-vous en manque de cinéma dans les salles? Le gouvernement parle d'une possible réouverture en juillet. 39-21, le hashtag Radio Ouverte. Votre invité Pierre de Villeneuve, Jean Labbadie, producteur et distributeur de films.
Oui, Jean Labbadie qui nous parlait du 1er juillet. Voilà cette hypothèse gouvernementale qu'il faut prendre évidemment avec des pincettes. Jean Labbadie, question pour vous au 39-21. Bonjour Isabelle.
Bonjour Pierre, bonjour à Monsieur Labbadie. Le cinéma, ça nous manque.
C'est vrai.
C'est terrible. Hein.
Est-ce que vous aussi, vous avez ce que disait Jean Labbadie, ce que moi je découvre un petit peu, cette communion quand vous allez au cinéma, on a l'impression d'être tous ensemble?
Ah bah oui, et puis par exemple Les Misérables, là qu'on a vu de fond, le cinéma, on l'a revu, on s'est fait plaisir en le regardant à nouveau là pendant le confinement. Les gens applaudissaient à la fin de la séance, vous savez, ça c'est une émotion quand vous sentez que vous ressentez tous un peu le même étourdissement, c'est vraiment très très chouette. Et puis rien ne remplace la dimension de l'écran, le son, enfin moi je suis très 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 fan hein, de ça, on a vraiment besoin de retrouver nos cinémas.
Alors, vous avez profité, vous, du confinement pour voir des films, pas que des classiques, d'ailleurs.
Oui. Non, alors oui, un classique, Un homme et une femme, hein, toujours un éblouissement, parce que c'était vraiment quelque chose de très puissant. L'affaire SK1, un film avec Raphaël Tarsenas, qui vraiment aussi est extrêmement touchant, qui est très bien tourné, avec des acteurs hyper impliqués. Et puis, Joker. Alors là, Joker, le choc à nouveau. Hein, avec
lui, il est déjà dans les grands classiques. Hein.
Ah oui, c'est un film qui est extrêmement touchant parce que on sent cette descente en enfer d'un homme. Et c'est pareil, c'est bien filmé, c'est puissant. Ça a été une grosse émotion du confinement, hein, Joker. Hein, là, je reconnais, on était tous en famille à regarder ce film. Ça nous a vraiment beaucoup remué.
Jean Labbadie, ça fait plaisir quand vous entendez Isabelle, hein, qui est une vraie amoureuse du cinéma, qui a d'ailleurs vu Les Misérables.
Ben, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de savoir que 210 millions de personnes sont allées au cinéma l'année dernière et que je pense qu'ils vont avoir, s'ils sont aussi nombreux à y aller, je pense que c'est parce que justement ils vivent à chaque fois une expérience tout à fait extraordinaire. Il faut dire que on a sûrement le plus beau parc de salles au monde. La plupart des villes bénéficient de multiplex avec des conditions de projection tout à fait remarquables, avec des sièges qui sont gradinés, ce qui veut dire que fini le temps où la personne devant vous qui faisait 1m80 vous empêchait de lire les sous-titres. On a maintenant l'air conditionné dans toutes les salles. Et c'est pour ça que je crois que franchement, ce sera facile de retourner au cinéma et sans aucun danger parce que d'abord, maintenant la plupart des salles sont équipées pour que vous puissiez acheter vos billets sans faire la queue. Ensuite, faire une distanciation sociale dans les salles, c'est-à-dire enlever un fauteuil sur deux. Évidemment, c'est un tout petit peu gênant pour des séances extrêmement pleines comme celle du samedi soir 20h ou du dimanche 16h.
Ou des films qu'on attend qui sont des énormes blockbusters.
Oui, mais dans ces cas-là, je pense qu'il y a une chose qui est assez simple, je pense que dans une première partie pour rattraper les entrées perdues, il suffira peut-être sur quelques séances par jour de mettre un écran de plus de manière à justement protéger.
C'est-à-dire le même film dans deux salles du même cinéma. C'est un multiplex, évidemment.
Voilà, ça se fait assez régulièrement, parfois un tout petit peu trop d'ailleurs, puisque à chaque fois qu'on met deux salles sur un film, ça veut dire qu'on enlève un film d'une autre salle, et donc ça nuit un tout petit peu à la diversité. Et c'est quand même la diversité du cinéma en France qui fait qu'il y a autant de spectateurs, parce que je crois que les pays où il n'y a comme offre cinématographique que les blockbusters et les comédies locales, ben finalement n'attirent plus toute une partie du public potentiel. La force de la France, c'est d'être capable de faire 1 million d'entrées pour un film de Kore-eda et de faire tout aussi 7 millions d'entrées pour Le Roi Lion. C'est ça la force de la France.
C'est ça la force du cinéma français. Merci beaucoup Jean Labbadie d'avoir été avec nous. Merci à Isabelle pour sa question 39-21.
Merci beaucoup.
continuez à nous appeler et aller au cinéma dès que ça rouvrira. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Pierre, bonjour Ambline.
Culture Média arrive à toute vitesse.
Exactement, on va commencer par notre infomédia totalement envoûtante. On va parler d'ASMR, vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est un phénomène à base de voix, des gens qui chuchotent.
Ah oui.
Il y a des centaines de millions
c'est
de téléchargements.
Ça fait du bien.
Et on va parler de ça, oui, évidemment. Nos invités ensuite, le producteur Pierre-Antoine Capton, c'est ce soir le grand retour d'une grande émission en direct, le Grand Échiquier. Il n'y a que des grands, présentés par Anne-Sophie Lapix en direct. Capton sera avec nous, c'est le patron de Media One et de Troisième Œil. Et puis Michel-Edouard Leclerc, on ne va pas parler de coquillettes, on va parler de son festival Culturissimo qui se déroule habituellement dans 75 villes de France, mais il a tenu à le maintenir cette année, il va nous dire comment.
Grand fan de Tintin, monsieur Leclerc.
Oui, immense fan de BD.
Exactement. Merci Philippe Vandel.
Merci bien.
À demain, 6 heures, d'ici là le monde aura changé ma chère Ambline.
Et vous allez le raconter ?
Ben oui.
C'était Pierre de Villeneuve sur Europe 1.